Chapitre 27. Dimanche 13 décembre, jour de la Sainte Lucie, le matin. Kenneth Strang s'arrête et tend l'oreille avant de se diriger lentement vers l'escalier. Il tient son arme le long de sa jambe, pointée vers le sol. La lumière du jour pénètre dans le couloir par la cuisine. Simone suit son père. La maison de la famille assassinée lui rappelle celle où elle habitait avec Eric quand Benjamin était petit. Un craquement retentit quelque part, dans le sol ou les profondeurs des murs.
« C'est Joseph ?» chuchote Simone.
La torche, les plans et la pince Monseigneur engourdissent les mains de Kenneth. Le poids de l'outil est presque insupportable. La maison est maintenant complètement silencieuse. Les bruits qu'ils ont entendus, les craquements et les coups étouffés, ont cessé. Kenneth lui fait un bref signe de la tête. Il veut qu'il descende dans la cave. Simone acquiesce, bien que tous les muscles de son corps le lui déconseillent. D'après les croquis, la cave constitue sans nul doute l'endroit idéal pour se cacher. Kenneth a annoté le plan au stylo, montrant comment le mur près du réduit de la vieille chaudière pourrait être prolongé pour créer une pièce quasiment invisible. L'autre endroit possible que Kenneth a marqué se trouve au fond du grenier. À côté de l'escalier en pin qui mène à l'étage, se trouve une ouverture étroite, sans porte. Les gonds d'une barrière de sécurité pour enfants sont encore scellés dans le mur. L'escalier en fer qui descend dans la cave semble presque artisanal. Les soudures sont larges et grossières et les marches revêtues d'un épais feutre gris. Kenneth appuie sur l'interrupteur, mais il ne se passe rien. Il appuie de nouveau, mais l'ampoule est grillée.
« Reste là, » dit-il à voix basse.
Simone ressent une décharge de pure terreur. L'odeur lourde et poussiéreuse qui monte de la cave lui fait penser au gaz d'échappement des gros camions.
« Donne-moi la torche, » dit-il en tendant la main.
Elle la lui remet lentement. Il lui sourit, allume la torche et descend avec précaution.
« Eh oh !»
lance Kenneth d'un ton abrupt.
« Joseph, j'ai besoin de te parler !»
Il n'y a pas un bruit dans la cave. Pas un craquement, pas un souffle. Simone serre la pince et attend. La lueur de la torche n'éclaire que les murs et le plafond de l'escalier. L'obscurité de la cave reste entière. Kenneth poursuit sa descente. La lumière se projette sur des objets épars. Un sac en plastique blanc, une bande réfléchissante sur une vieille poussette, le sous-verre d'un poster de film.
Je crois que je peux t'aider, dit Kenneth d'une voix plus basse.
Il arrive en bas, balaye d'abord rapidement la pièce avec la torche pour s'assurer que personne ne jaillit d'une cachette. Le cône de lumière glisse sur le sol et les murs, saute au-dessus d'objets proches et jette des ombres inclinées et oscillantes. Ensuite, Kenneth reprend son approche. Il fouille la pièce calmement et systématiquement. Simone se met à descendre l'escalier. La structure métallique résonne sourdement sous ses pieds.
Il n'y a personne, dit Kenneth.
Qu'est-ce qu'on a entendu alors? Il y avait quelque chose, j'en suis sûr, dit-elle.
La lumière du jour suinte par un petit soupirail poisseux. Leurs yeux s'habituent à l'obscurité. La cave est remplie. Des vélos de différentes tailles, une poussette, des luges, des skis de piste, une machine à pain, des décorations de Noël, des rouleaux de papier peint et un escabeau avec des taches de peinture blanche. Sur un carton, quelqu'un a écrit avec un gros feutre « Bande dessinée de Joseph ». Simone entend un tapotement en provenance du plafond. Elle regarde l'escalier puis son père. Il ne semble pas percevoir le bruit. Il avance lentement vers une porte située de l'autre côté de la pièce. Simone se heurte à un cheval à bascule. Kenneth ouvre la porte et découvre une buanderie avec une petite machine à laver, un sèche-linge et une vieille essoreuse. À côté d'une pompe à chaleur géothermique, un rideau sale est pendu devant un grand placard.
« Il n'y a personne, » dit-il en se retournant vers Simone.
Elle le regarde et voit alors le rideau crasseux derrière son dos. Il est complètement immobile, mais c'est comme s'il y avait une présence.
« Simone ? »
Il y a une tache d'humidité sur le tissu, un petit ovale comme celui que laisserait une bouche.
Fais voir le plan, dit Kenneth.
Simone a l'impression de voir l'ovale humide s'incurver brusquement.
Papa,
chuchote-t-elle.
Oui, répond-il en s'appuyant contre le montant de la porte.
Il remet le pistolet dans son étui d'épaule et se gratte la tête. Un craquement soudain retentit. Elle se retourne et voit que le cheval à bascule bouge encore.
Qu'est-ce qu'il y a, Sixon ?
Kenneth la rejoint, lui prend le plan des mains, le pose sur un matelas enroulé, l'éclaire avec la torche et le retourne. Il lève la tête, regarde de nouveau le plan et avance jusqu'à un mur de briques contre lequel sont posés de vieux lits superposés démontés et une armoire contenant des gilets de sauvetage orange. Des ciseaux, différentes scies et des serre-joints sont suspendus sur un panneau à outils. L'espace près du marteau est vide. Il manque la grande hache. Kenneth évalue le mur et le plafond du regard. Il se penche et tape sur le mur derrière le lit.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
demande Simone.
« Ce mur doit dater d'au moins 10 ans. »«
Il y a quelque chose derrière ?»«
Oui, une pièce assez grande. »
« Comment est-ce qu'on y entre ?»
Kenneth éclaire de nouveau le mur avec la torche, puis le sol près du lit démantelé. Les ombres glissent dans la cave.
« Éclaire encore là-bas, » dit Simone.
Elle désigne le sol près de l'armoire. Quelque chose a rayé plusieurs fois le béton en arc de cercle.
« Derrière l'armoire, » dit-elle.
« Tiens la torche, » dit-il en ressortant son pistolet.
Subitement, un bruit se fait entendre derrière l'armoire, comme si quelqu'un bougeait prudemment à l'intérieur. Les mouvements sont bien distincts, mais extrêmement lents. Simone sent son pouls s'accélérer et cogner.
« Il y a quelqu'un là-dedans, pense-t-elle, mon Dieu !»
Elle voudrait crier le nom de Benjamin, mais n'ose pas. Kenneth fait un geste pour la faire reculer. Elle s'apprête à dire quelque chose, quand le silence chargé éclate soudainement en une violente explosion à l'étage supérieur. Du bois se fend et se brise. Simone fait tomber la torche à terre et tout devient noir. Des pas rapides retentissent au-dessus de leur tête. Le plafond craque, des cônes de lumière éblouissants déferlent dans l'escalier en fer et à l'intérieur de la cave comme de grandes vagues.
« Couchez-vous par terre !»
hurle un homme hystérique.
« Par terre !»
Simone reste complètement pétrifiée, aveuglée comme un animal nocturne devant les phares d'une voiture.
« Couche-toi !»
crie Kenneth.
« Fermez-la !»
aboie quelqu'un.
« Par terre ! Par terre !»
Simone ne comprend pas que les hommes s'adressent à elle avant de recevoir un violent coup dans le ventre et de se retrouver plaquée contre le sol en béton.
« Par terre, j'ai dit !»
Elle cherche de l'air, tous et halète. Une lumière aveuglante emplit la cave. Des ombres noires les tirent et les traînent en haut de l'étroit escalier. Ses mains sont attachées derrière le dos, elle a du mal à marcher, glisse et cogne sa joue contre la rampe de métal acérée. Elle tente de tourner la tête, mais quelqu'un la maintient d'une main ferme et la pousse violemment contre le mur qui jouxte l'entrée de la cave. Des silhouettes semblent la fixer du regard. Elle cligne des yeux dans la lumière du jour, elle a de la peine à voir. Des fragments d'une conversation au loin lui parviennent et elle reconnaît la voix concise et rigoureuse de son père. C'est une voix qui lui fait penser à l'odeur du café tôt le matin avant l'école, avec les infos à la radio. À cet instant seulement, elle comprend que ce sont des policiers qui ont pris la maison d'assaut. Un voisin aura vu la lumière de la torche de Kenneth et appelé le numéro d'urgence. Un officier de police d'environ 25 ans, des rides et des cernes sur le visage, l'observe l'air stressé. Sa tête est rasée, son crâne bosselé et difforme. Il passe la main sur son cou à plusieurs reprises.
« Votre nom ?» demande-t-il froidement.
« Simone Barke, » dit-elle d'une voix encore vacillante. « Je suis là avec mon père qui est... »«
Je vous ai demandé votre nom !» interrompt l'homme d'une voix forte.
« Calme-toi, Ragnar !» dit un collègue.
« Vous n'êtes qu'un putain de parasite !» poursuit-il en se tournant vers Simone. « Mais c'est juste mon avis sur les gens qui prennent leurs pieds à la vue du sang !»
Il se détourne en rechignant. Elle entend toujours la voix de son père. Il parle d'une voix égale, semble très fatigué. Elle voit un des policiers s'éloigner avec son portefeuille.
« Excusez-moi, » dit Simone à une policière. « Nous avons entendu quelque chose en bas.
Fermez-la »
dit la femme.
« Mon fils est... »
« Fermez-la, je vous dis !»
Scotche-lui la bouche, il faut la scotcher.
Simone voit le policier qui l'a traité de parasite sortir un large rouleau de scotch, mais il est stoppé dans son élan quand la porte d'entrée s'ouvre et qu'un homme grand et blond au regard vif entre et traverse le couloir.
Jona Lina, Rikskrim, dit-il avec un accent finlandais prononcé. Qu'est-ce que vous avez?
Deux suspects, répond la policière.
Jona regarde Kenneth et Simone.
Je prends le relais, dit-il. C'est un malentendu.
Deux fossettes apparaissent soudain sur les joues de Jona quand il leur dit de relâcher les suspects. La policière se dirige vers Kenneth, lui retire ses menottes, s'excuse et reste ensuite à échanger quelques mots avec lui, les oreilles rouges. Le policier à la tête rasée piétine devant Simone et la fixe du regard.
Relâche-la, dit Jona.
Ils ont opposé beaucoup de résistance et je me suis blessé au pouce, répond-il.
Tu comptes les arrêter? Demande Jona.
Oui.
Kenneth Strang et sa fille.
Je me fous de qui c'est, dit le policier d'un ton agressif.
Ragnar tente de raisonner la policière, c'est un collègue.
Il est interdit de s'introduire sur une scène de crime et je te promets...
Calme-toi maintenant, interrompt Jona d'un ton autoritaire.
Mais je me trompe? Demande-t-il.
Kenneth les a rejoints mais ne dit rien.
Je me trompe? Répète Ragnar.
On en reparlera plus tard, répond Jona.
Pourquoi pas maintenant?
Jona baisse la voix et dit sèchement,
ça vaut mieux pour toi.
La policière s'approche de nouveau de Kenneth, se racle la gorge et dit,
nous sommes désolés, vous aurez un gâteau demain.
Ce n'est rien, dit Kenneth en aidant Simone à se remettre debout.
La cave,
dit-elle d'une voix à peine audible.
Je m'en occupe, dit Kenneth qui se tourne vers Jona. Une ou plusieurs personnes se trouvent dans une pièce cachée dans la cave, derrière l'armoire au gilet de sauvetage.
Écoutez-moi bien, crie Jona aux autres. Nous pensons que le suspect se trouve dans la cave. Je dirigerai les opérations durant toute l'intervention, soyez prudents. Il pourrait y avoir un otage et le cas échéant, je serai le négociateur. Le suspect est dangereux, mais en première intention, les coups de feu doivent être dirigés vers les jambes.
Jona emprunte un gilet pare-balles qu'il enfile à la hâte. Puis, il envoie deux policiers à l'arrière de la maison et réunit un groupe d'intervention autour de lui. Ils écoutent les instructions rapides puis disparaissent avec lui par l'entrée de la cave. L'escalier en métal tonne sous leur poids. Kenneth tient Simone dans ses bras. Elle a si peur que tout son corps tremble. Il lui souffle que tout ira bien. La seule chose que veut Simone, c'est entendre la voix de son fils monter de la cave. Elle prie pour que maintenant, d'une seconde à l'autre, elle puisse entendre sa voix. Peu après, Jona revient, le gilet pare-balles à la main.
Il nous a échappé, dit-il d'un ton laconique.
Benjamin, où est Benjamin?
Demande Simone.
Pas ici, répond Jona.
Mais la pièce.
Simone se dirige vers l'escalier. Kenneth tente de la retenir, mais elle se dégage de son bras, bouscule Jona et dévale l'escalier en fer. La cave est maintenant éclairée comme en plein jour. Trois projecteurs sur trépied inondent la pièce de lumière. L'escabeau a été déplacé sous le soupirail ouvert. L'armoire avec les gilets de sauvetage a été poussée sur le côté et un officier de police garde l'ouverture de la porte conduisant à la cache. Simone se dirige vers lui d'un pas lent. Elle entend parler son père derrière elle, mais ne comprend pas ce qu'il dit.
« Il le faut !» dit-elle faiblement.
Le policier lève une main et secoue la tête.
« Je ne peux malheureusement pas vous laisser entrer !» dit-il.
« C'est mon fils !»
Elle sent les bras de son père l'entourer, mais tente de se libérer.
« Il n'est pas là, Simone !»«
Lâche-moi !»
Elle continue d'avancer et regarde à l'intérieur de la pièce. Un matelas sur le sol, des piles de vieilles bandes dessinées, des paquets de chips vides, des protège-chaussures bleu clair, des boîtes de conserve, des paquets de cornflakes et une grande hache étincelante.